Aujourd'hui, je débute ce message par poser une question aux plus jeunes d'entre nous, les enfants. Que dirais-tu si tes parents, Lynn, ou bien tes parents Clément et Christelle, ou les autres, viendraient puis te diraient, eh bien, Lia, par exemple, maintenant, on va te vendre, on va te donner à des personnes qui vont prendre soin de toi, mais tu vas devoir travailler comme esclave pour eux. Parce qu'on a des dettes, on doit payer quelque chose, et puis on n'a pas l'argent pour payer ça. Est-ce que tu serais d'accord? Puis les autres, qu'on vous vende pour travailler, vous serez d'accord? Non? Ah ben, moi non plus, à votre place. Eh bien, à l'époque de l'Ancien Testament, les parents vendaient de temps en temps leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas d'autres possibilités. Et puis, c'était un moyen de payer justement leurs dettes. J'invite sans plus tarder Werner Freudiger à venir nous faire la lecture de 2 Rois 4, 1 à 7.
Bonjour à vous tous. Alors, miracle accompli par Élisée, une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, « Va demander des vases dans la rue, chez tous les voisins. » Et tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentait les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient », et qu'il lui répondit, « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, qui lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Que le Seigneur bénisse sa parole.
Merci Werner. Le culte dernier, j'avais demandé à Werner s'il était d'accord de lire le passage. Et il m'a dit, « Mais il est court ce passage. » C'est pour ça que j'ai décidé de lui donner un deuxième passage. Merci beaucoup. Surtout que cet après-midi, il ne sera pas là, donc il a encore une journée qui est assez grande avec la fin de caté de Jonas. Donc, merci d'être là. J'ai intitulé ce message « La veuve, héroïne de la foi ». Voici les 3 points du message que nous allons développer. Le premier, la détresse de la veuve. La foi active de la veuve est le miracle de l'Éternel. Le premier point, la détresse de la veuve. Dans la société patriarcale de l'époque, une veuve avec des enfants à charge était plus démunie qu'une femme célibataire sans mari. Nous pouvons tous imaginer à quel point c'est difficile d'être monoparental. Si nous multiplions ces difficultés par 50 ou 100, on aura une toute petite idée de ce qui pèse sur cette mère veuve du temps d'Élysée. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. Son mari l'a laissée non seulement sans ressources, mais également avec d'énormes dettes. Le texte ne mentionne pas les raisons qui l'a poussée à avoir des dettes. Ce qui est certain, c'est que c'était un prophète qui craignait l'Éternel. Peut-être, vous dites-vous maintenant, mais pourquoi est-ce que Dieu permet cela ? Ce n'est pas juste. Il servait le Seigneur de tout son cœur. Il le craignait. C'était un prophète. Et voilà comment il est récompensé. Lui et sa famille ont très certainement fait de nombreux sacrifices. Eh oui, l'Éternel fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. Comme vous le savez, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous serons épargnés des douleurs, des afflictions dans ce monde, malheureusement. Mais nous connaissons la fin de l'histoire et nous avons l'espérance qui est attachée en Jésus-Christ. Et nous avons Christ qui nous aide à traverser toutes ces turbulences et toutes ces difficultés. Tragédie sur tragédie. Non seulement ce mari, ce père de famille meurt, mais le créancier vient pour prendre ses enfants pour payer sa dette. Dans la loi mosaïque, les enfants étaient considérés comme la propriété des parents. De nos jours, si nous empruntons de l'argent, il nous faut fournir un gage, que ce soit une maison, une voiture, du terrain ou toute autre chose de valeur. Du temps d'Élysée, ce gage consistait souvent dans un potentiel humain, de la main-d'œuvre, tout en limitant la durée de servitude. Ses deux enfants sont la seule chose qui lui reste à cette veuve. Elle sait très bien que lorsqu'ils auront grandi, ils prendront soin d'elle, parce que cela fait aussi partie de la loi. Quelle est l'attitude de la veuve ? Elle est bien évidemment stressée, désemparée et désespérée. Nous le serions pour moins que ça. Elle ne se plaint pas pourtant, ne déprime pas seule dans son coin. Non, elle est active, elle cherche une solution. Elle court vers le prophète des prophètes, l'homme de Dieu. C'est en quelque sorte comme si elle courait vers Dieu lui-même. Parce que Élysée était un type de Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, Dieu parlait au travers de ses serviteurs, les prophètes. Il est intéressant de savoir que le nom Élysée signifie « Dieu est salut ». Le deuxième point, la foi active de la veuve. Élysée adresse à cette femme deux questions. La première, que puis-je faire pour toi ? Cela fait bien évidemment penser au Seigneur qui demande à l'infirme à Bethesda, « Veux-tu être guéri ?» En d'autres termes, Élysée lui demande, « Quelle est la mesure de ta foi ? As-tu la foi ? Qu'est-ce qu'elle attend du secours d'Élysée ?» La veuve reste silencieuse. Sur ce, et sans plus attendre, Élysée lui pose une seconde question. « Dis-moi, qu'as-tu chez toi ?» Cela ressemble fort bien à ce que Jésus a dit aux disciples. « Vous, donnez-leur à manger. » Que répond la veuve ? « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » La veuve exprime sa pénurie, son manque dans le rien du tout. Elle n'a qu'un pot d'huile, rien d'autre. Le mot traduit par « pot » ou « vase » signifie un petit contenant. De quelle huile s'agit-il ? Le texte n'est pas explicite, mais nous pouvons aisément en faire des déductions. Ce n'est très certainement pas de l'huile d'olive, parce que ça ne suffirait pas à couvrir les frais pour les deux fils. L'huile d'olive était chère, mais pas à ce point-là. Il s'agit plutôt de l'huile parfumée de nard, très coûteuse, comme celle que Marie a utilisée pour oindre les pieds de Jésus. Et là, vous vous souvenez, les disciples sont venus et ont fait des reproches. Il illustre également pour préparer les défunts. Peut-être que la veuve avait mis cette huile de côté, justement pour son sépulcre. Il conservait cette huile comme des lingots d'or pour les temps difficiles. Élisée dit, « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. » Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. La veuve s'exécuta. La veuve a une grande foi. Elle obéit et met sa foi en action. Qu'est-ce que la foi ? Le terme foi n'apparaît pas très fréquemment dans l'Ancien Testament. Néanmoins, c'est un concept fondamental qui s'apparente au mot de la famille croire, faire confiance ou espérer. Dans le Nouveau Testament, la foi occupe une place prépondérante. Hébreux 11:1, un texte phare sur la foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est l'élément le plus important de la vie chrétienne. On ne peut ni l'acheter, ni le vendre, ni le donner. Sans la foi, il est impossible d'avoir accès à Dieu et de lui être agréable. Hébreux 11:6. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. Et le troisième point, le miracle de l'Éternel. Va demander des vases dans la rue chez tous tes voisins, des récipients vides, et demande-en un grand nombre. L'Éternel Dieu est souverain sur les cœurs. Il avait disposé les cœurs des voisins de la veuve pour qu'il lui donne une multitude, un grand nombre de vases vides. Autrement, ils auraient pu dire non. La veuve décida d'obéir. Elle n'avait aucune idée du miracle qui allait se produire. Elle a juste décidé d'obéir. L'obéissance est la clé de la bénédiction. La veuve aurait pu s'arrêter à mi-chemin, se dire à quoi bon, ou récolter seulement quelques vases, ou n'en récolter aucun. Non, elle décida de mettre sa foi en action. C'est une héroïne de la foi. Elle persévère et suit à la lettre les instructions d'Élisée. Il lui demande de fermer la porte derrière elle, elle le fait. Elle obéit à la lettre à tout ce qu'il demande. Si elle avait regardé aux circonstances de sa vie, si elle avait intellectuellement analysé la situation, elle n'aurait très certainement pas eu la foi d'obéir aux instructions du prophète Élisée. Et par conséquent, l'Éternel n'aurait pas pu la bénir de cette manière. L'Éternel aurait peut-être utilisé une autre ressource, ou pas, Dieu seul le sait. Les miracles de Dieu, les 5 pains et les 2 poissons, en est un exemple parfait. Les disciples ont mis leur foi en action. C'est quand ils ont mis leur foi en action, quand ils ont fait quelque chose, que le miracle s'est opéré. Dieu permet souvent que nous soyons placés dans des circonstances qui portent la marque de ses ressources de grâce. En obéissant, en mettant notre foi en action, Dieu opère le miracle et fait l'impossible, l'inimaginable. Vous savez, cela fait bientôt une année que je suis là, mais dans le long processus de mon engagement dans l'Église, j'ai dû mettre ma foi en action. Le poste était initialement, prévu pour le 1er août 2020. La votation de l'Église était prévue le 30 juin et a eu lieu le 30 juin. J'ai dû résilier mon appartement parce que j'avais, comme tout le monde, une dette de 3 mois. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches pour un nouvel appartement. J'ai trouvé ce magnifique appartement à Sornetan, un vrai cadeau, une bénédiction de Dieu. C'est par la foi que j'ai déménagé et emménagé le 20 juin 2020 à Sornetan, et 10 jours plus tard, il y avait la votation d'église. Je peux vous dire que quand on n'est pas dans la situation, ça paraît pas grand-chose, mais je peux vous dire que le soir de la votation, jusque Madeleine me téléphone, parce qu'il était bien tard, ben, ma foi, elle commençait gentiment à diminuer. J'arrivais à 10h, je me disais, oh là là, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait ? Déménager à Sornetan depuis la Riviera, pour moi à l'époque, un trou perdu, désolé. Qu'est-ce que je fais là ? Et qu'est-ce que je vais faire si l'Assemblée ne m'accepte pas, ne vote pas pour moi ? J'aurais déménagé ici pour rien. Je peux vous dire que là, la foi a été mise à l'épreuve. Mais je suis persuadée que si je n'avais pas mis ma foi en action, je n'aurais pas eu l'appartement, parce qu'il est magnifique et il y aurait eu d'autres personnes qui l'auraient eu. J'ai pris un risque, mais j'aime à dire que c'était un risque calculé, parce que j'ai reçu plusieurs confirmations et tous les signes allaient dans ce sens. Plusieurs personnes, notamment des personnes qui m'ont aussi aidé à déménager, me disaient « Mais t'es complètement folle, t'as perdu la tête, tu déménages et t'es pas encore engagée. » Mais c'est là que Dieu opère ses miracles. Et c'est là que notre foi se construit et que notre confiance en lui grandit. La foi est un choix. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est un défi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur pour le miracle de la foi. Merci parce que la foi vient de toi, elle ne vient pas de nous. C'est toi qui nous donnes cette foi de pouvoir aller de l'avant. Merci parce que tu nous as donné la foi de te faire confiance, de marcher avec toi. Et Seigneur, on te demande que tu viennes à notre secours afin que nous puissions t'obéir, faire ta volonté toujours plus. Amen.